Peut-être qu'il y a une part de fantasme là-dedans, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Peut-être qu'ils vont vouloir regarder dans notre appareil photo ce qu'on a tourné.
Il nous a demandé de le suivre dans une petite pièce fermée électroniquement.
Bonjour, je m'appelle Yves Pulici et les journalistes que vous venez d'entendre, ce sont Marie Perraube et Étienne Grelet. Entre interrogatoire et censure, ils racontent la guerre vue depuis la Russie. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Marie, salut Étienne.
Salut.
Salut.
Vous êtes tout juste de retour de Russie. Là, on est à la rédaction de BFM TV. Vous avez passé une semaine à Moscou et dans une petite ville près de l'Ukraine. Comment déjà est-ce qu'on fait pour arriver en Russie, pour aller en Russie aujourd'hui?
Alors c'est vrai que c'est très compliqué pour arriver jusqu'à Moscou. C'est un très 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 long voyage parce que les communications sont coupées. Il n'y a plus de vol direct avec l'Europe. Donc on ne peut pas faire un Paris-Moscou comme on pouvait faire il y a encore un mois et demi. Donc on est passé par Dubaï. On a fait un peu le tour de la Terre. Hein. On est passé par Dubaï et puis on est arrivé à Moscou après... Je ne sais pas combien d'heures.
24 heures de trajet à peu près, voilà, pour arriver jusqu'à Moscou, alors que normalement c'est 6 heures.
Vous vous attendiez à quel accueil en tant que journaliste?
En fait, c'est vrai que partir en Russie, comme il y avait très peu de gens qui étaient, de journalistes qui étaient, depuis le déclenchement de la guerre, partis là-bas, on était dans l'expectative, on ne savait pas exactement ce qui allait nous arriver en arrivant. Quand on arrive dans un aéroport, au moment de passer l'immigration, quand on donne son passeport, d'habitude, on donne son passeport, on a un joli petit tampon. Et puis on peut franchir la porte et on est dans le pays officiellement. Et là, quand on est arrivé, en fait, ils ont gardé nos passeports. Ils sont tournés vers nous, ils nous ont demandé d'aller nous asseoir sur deux chaises. Et là, on a attendu sans que personne nous dise rien pendant 2 heures.
On a quand même fait les démarches avant de partir d'avoir un visa presse comme dans plein d'autres pays. Et du coup, on se dit que voilà, on va pouvoir travailler normalement grâce à ce visa presse. Et en fait, on se rend compte quand même, quand on est avec la personne qui nous fait cet interrogatoire, que ils vont vouloir un peu connaître les tenants et les aboutissants de notre reportage, quoi. Donc savoir ce qu'on va faire, si on va parler de telle ou telle chose. Et du coup, pour nous, c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas l'habitude de devoir se justifier sur comment on va travailler, quoi.
C'est quand même une pression. C'est-à-dire que au bout de 2 heures, donc un homme est venu nous chercher en costume très chic, dans un anglais impeccable, et il nous a demandé de le suivre dans un sous-sol, enfin au rez-de-chaussée de l'aéroport, dans une petite pièce fermée électroniquement. Et là, il a commencé, ce que disait Étienne, à nous poser des questions. Quel type de reportage? Qui on était? Est-ce qu'on connaissait Alexei Navalny, qui est l'un des opposants célèbres, opposant de Vladimir Poutine? Moi, il m'a demandé un moment si je savais comment on disait espion en français, spy en français. Donc, ce sont des choses anodines, mais tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi il me pose cette question? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut dire? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire? Donc on est tout de suite mis dans l'ambiance. Et c'est très récent. Avant, quand on allait en Russie, même en tant que journaliste, on n'était pas accueillis comme ça par un membre du FSB. C'est ce que nous ont dit nos contacts après sur place. C'est que la personne qui nous avait accueillis faisait probablement partie des services secrets russes.
Et à ce moment-là, vous dites que vous allez pouvoir faire normalement votre travail en Russie, comme avant la guerre?
À partir du moment où on est passé, on se dit, bon, déjà, une première partie de notre périple est passée. Donc on se met en direction de l'hôtel. Et puis, ça nous conditionne un petit peu, par contre, pour tout le reste du voyage. On sait qu'il y a cette chape de plomb qui est en train de s'installer sur le pays et du coup, qu'on va devoir sûrement travailler dans des conditions un peu différentes de d'habitude.
C'est quoi les conditions un peu différentes de d'habitude?
Il y a d'abord le contenu de ce qu'on va dire. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire, comme le mot « guerre », par exemple. Il faut parler d'opérations spéciales. Donc, quand on fait des directs, des duplex, on se cadenasse forcément un petit peu. On fait attention à choisir les bons mots. Et puis, il y a aussi le fait d'interviewer les gens qu'on interviewe, les personnes avec qui on travaille sur place, de ne pas les mettre en danger. Donc, on est toujours un petit peu prudent. On fait les choses rapidement. Notamment, par exemple, un duplex qu'on a fait de nuit. Peut-être, Étienne, tu peux raconter, où notre traducteur nous disait ne mettez pas la lumière.
On s'est installé le plus tard possible. Parce que, en fait, c'est le duplex de nuit avec la lumière qui est quasiment obligatoire, puisque sinon on ne voit rien. Ça stressait vraiment notre fixeur, donc la personne avec qui on travaille sur place, qui, en fait, fait tout le travail en amont de notre venue sur place. C'est-à-dire qu'il caste les gens sur place. Il va sélectionner des gens qui vont être parlants pour l'angle de notre notre sujet. Et puis, c'est un relais, en fait, indispensable sur place pour nous qui ne connaissons pas le terrain comme lui le connaît. Il connaît Moscou par cœur, il a un réseau. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui, en fait, sans qui le sujet n'est pas possible.
Et donc lui, il vous donne des consignes, des aides pour la sécurité.
Et lui, on s'est vraiment reposé sur lui de A à Z, et notamment sur ce duplex de nuit, parce que voilà, on sentait qu'il, en allumant la lumière d'un coup dans la nuit moscovite, bah ça le faisait stresser. Donc on s'est dit, on va le faire au dernier moment, on va allumer la lumière au dernier moment. Et puis Marie a parlé sûrement un peu plus vite que d'habitude. Et puis voilà, on s'est pas fait repérer. Mais c'est vrai que c'est totalement anormal de travailler dans ces conditions-là, c'est sûr.
Parce que c'est quoi le risque si vous êtes repéré ?
En fait, le principe aussi, c'est qu'on ne sait pas précisément ce qu'on risque. Donc, il y a toujours ce flou qui crée une tension intérieure très importante. On ne sait pas si notre fixeur, justement, avec lequel on travaille en confiance et qui, lui, est l'un des derniers, en plus, à rester sur place pour travailler avec les journalistes, donc qui risque potentiellement 15 ans de prison. Voilà, on sait que les risques sont très élevés pour lui, mais on ne sait pas vraiment si ça peut tomber, quand ça peut tomber, pourquoi ça peut tomber. Donc, en fait, c'est cette incertitude qui nous met toujours dans une forme d'inconfort de travail.
Vous êtes parti en Russie pour raconter la guerre vue par les Russes. Comment est-ce qu'on s'organise sur toute la semaine ? On reste à Moscou, on part dans une autre ville. Vous pouvez me raconter un peu ?
On était basé à Moscou, donc au départ on est resté à Moscou. On a rencontré une famille de moscovites, de la classe moyenne.
Elle est professeure de musique, lui accordeur de piano. Alexandre essaie de joindre son père, qui se retrouve coincé, à 74 ans, au milieu des combats en Ukraine, où il vit.
Il ne répond pas. Ça fait 2 jours qu'il n'est pas connecté au réseau.
Alexandre est évidemment inquiet, et il semble un peu perdu. D'après lui, son père ne sait pas quel camp bombarde sa ville.
Il n'a pas d'informations précises sur ce qui se passe. Il entend surtout des bruits, des rumeurs, qui sont souvent démenties ensuite.
Au départ, ce qu'on veut, c'est comprendre comment les Russes vivent ce conflit, qu'est-ce qu'ils en comprennent, qu'est-ce qu'ils en savent. Et c'est vraiment tout de suite, voilà, nous on est vraiment des vrais reporters, et c'est vraiment donner la parole aux gens, essayer de comprendre, c'est très basique, hein, mais c'est pour nous vraiment l'essence de notre travail. Donc on est resté un petit peu à Moscou, et puis ensuite on voulait aussi voir, parce que la Russie n'est pas Moscou, on voulait aussi aller dans une campagne, voir comment ça se passe, à des centaines et des centaines de kilomètres de la capitale, et c'est là qu'on est allé dans ce petit village, pile poil entre la frontière ukrainienne et Moscou, voir comment vivent les gens à la campagne, qu'est-ce qu'eux perçoivent du conflit, est-ce que c'est différent de Moscou, comment ils vivent les choses.
Et à quoi ressemble la Russie, Moscou et cette petite ville ?
Alors Moscou, c'est une grande métropole avec très occidentalisée. Alors j'étais jamais allé à Moscou, mais on m'avait toujours dit que c'était voilà, une grande métropole où les gens font la fête, où les gens boivent des verres, vont au restaurant. Ils continuent à faire la fête, à aller au restaurant, mais bon, il y a déjà ces devantures fermées et on sent dans les états d'esprit, on sait qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont fui, beaucoup de gens qui sont ouverts vers l'Occident, qui ont fui notamment Moscou, des intellectuels, des journalistes. Et en fait, en parlant un petit peu aux gens, ça, on le ressent à Moscou. La problématique est un peu différente dans la petite ville dans laquelle on est allé à la campagne. C'est que là, pour le coup, ça change pas le quotidien des gens. En fait, on sent vraiment que la guerre est très, très loin du quotidien des gens de cette petite ville. Parce que, en fait, ils n'achètent pas de sac Chanel. Ils ne vont pas au McDonald's. Ils vont sur le marché local. Et en fait, la guerre en Ukraine, pour eux, c'est loin.
Comment on fait pour parler aux gens, pour trouver un député qui s'est fait arrêter, un activiste ?
Et c'est pour ça qu'Étienne parlait de l'indispensable fixeur qui est notre coéquipier. On travaille vraiment tous les trois en fait. Et il se trouve en plus que notre fixeur était un très très bon journaliste, un homme vraiment génial et passionnant et très intelligent et qui était très bon reporter. Donc voilà, au départ on disait on aimerait beaucoup pouvoir parler à des gens à la campagne, à des gens en ville. Est-ce que tu peux nous trouver quelqu'un, et ça a été extrêmement difficile pour lui. Ce qu'il nous expliquait, c'est que les Russes veulent de moins en moins parler, et en particulier aux Français, aux Occidentaux, parce que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a une propagande qui est extrêmement puissante là-bas en Russie, et donc il avait beaucoup de mal à trouver des gens qui acceptent de nous parler, de discuter avec nous, d'être interviewés. Mais il a quand même réussi. C'est son talent, en fait. C'est appeler, comme on pourrait faire nous ici, des amis d'amis d'amis, quelqu'un qu'il avait interviewé peut-être lui il y a 3 ans, moment, le rappeler, lui dire « Oui, mais c'est très important qu'on parle de la Russie, est-ce que tu serais d'accord pour rencontrer Marie et Étienne ?» Donc voilà, il est vraiment la pierre angulaire de tout ce qu'on peut faire. Après, comme n'importe où en reportage sur le terrain, il y a toujours des surprises, notamment un exemple très simple, très concret. On a interviewé une babouchka dans cette petite ville de campagne, une grand-mère donc russe, et quand on arrive pour l'interviewer, elle était d'accord pour qu'on l'interviewe, elle n'avait pas changé d'avis dans la nuit, mais son petit-fils était malade. Donc, c'était pas possible. Parce qu'elle gardait son petit-fils qui avait de la fièvre. Donc là, avec l'aide du fixeur qui traduit, c'est lui dire « Oui, alors bon, peut-être que... Et si on prenait votre petit-fils avec nous ?» Bon, je précise qu'il avait pas trop de fièvre, hein, mais on lui donnera notre portable, il pourra faire un petit jeu. Voilà, il y a après tout ce qu'on vit sur le terrain, de réussir à convaincre les gens, de nous parler, de nous raconter ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent.
Puis avec deux arguments différents, pour les personnes dans cette petite ville loin de Moscou, notre fixeur, je sais qu'il a utilisé l'argument du fait que peu de médias français, en tout cas, étaient venus s'intéresser au quotidien des Russes depuis le début de ce conflit. Et en fait, c'est aussi pour ça que ça nous intéressait de faire ce sujet, c'est que on a beaucoup parlé de l'Ukraine du côté ukrainien et à juste titre, puisque c'est là-bas que se passe cette guerre. Mais en fait, venir donner la parole aux gens et aux Russes comme ça, en venant les voir chez eux, bah, ça nous semblait évidemment très intéressant. Et pour les opposants, en fait, on sait que les opposants, notamment un député qu'on a interviewé.
Quand il nous reçoit chez lui, il sort de 15 jours de détention.
J'ai 60 ans et j'ai vécu la moitié de ma vie sous le régime communiste. Donc de quoi voulez-vous que j'aie peur? Là, on voit bien que c'est ma patrie, mon pays, l'agresseur. Et ça me fait mal. C'est humiliant. Tous les Russes ne soutiennent pas la guerre.
Cet homme est l'un des rares à oser aujourd'hui dire ce qu'il pense, sans détour.
Bien sûr que Vladimir Poutine est un dictateur.
Pour lui, en fait, c'était primordial de faire entendre sa voix à l'Occident pour dire que tous les Russes ne sont pas d'accord avec ce que fait Vladimir Poutine.
Pour l'activiste qui a peur d'être arrêté, qui est certainement surveillé, comment est-ce qu'on fait? Comment ça se passe?
Je pense pas qu'il ait peur d'être arrêté. Je pense qu'il sait qu'il va être arrêté et qu'il en a fait un choix. Politique et personnel, en fait. Il se dit, pour moi, c'est plus important de se battre pour la liberté. Il a 22 ans, hein, il est très jeune. C'est touchant, hein, d'ailleurs. On fait des rencontres très fortes. Des gens qui nous touchent aussi, qui s'engagent. Enfin, c'est aussi l'intérêt de ce travail. Et, l'activiste, en fait, là-bas, les Russes, ils n'ont plus Facebook, ils n'ont plus Instagram, ils n'ont plus Twitter. Mais ils communiquent avec un réseau social, je sais pas trop comment on dit, mais qui s'appelle Telegram. Et en fait, lui, il a fondé une chaîne Telegram et il a beaucoup d'adhérents. Et donc, il est sur Telegram et notre fixeur l'avait trouvé par ce biais-là.
Il y avait des dispositifs spéciaux de sécurité, de rencontres.
Pour tout vous dire, avec cet activiste-là, lui, il était même d'accord pour témoigner à visage découvert. Et c'est nous qui, en parlant avec Étienne, avons décidé de le flouter. Parce que il ne mesurait pas forcément tous les risques, il est assez jeune, on ne voulait pas pouvoir être à l'origine de son arrestation. C'est lui qui a eu des aides, vous savez, les aides qui sont le symbole de l'armée russe, dessinées sur sa porte, la porte de chez sa mère, parce qu'il vit chez sa mère, et donc il est déjà repéré.
Et ils ont écrit « Ne trahis pas ta patrie ». En ce moment, j'essaie de ne pas rester trop longtemps à la maison. J'essaie de ne pas être là la nuit. Pas à cause des gens qui ont peint ça sur ma porte, mais à cause de la police. J'ai peur d'être arrêté pour un mois ou même plus, parce que j'ai participé à une manifestation contre la guerre. Et je pense qu'ils vont finir par le faire.
Voilà, on voulait pas le faire plonger un petit peu plus.
Il y a eu un moment particulier de tension, c'est quand vous êtes dans cette petite ville, les services de renseignement viennent vous voir.
Ils contactent notre fixeur, donc. Ça faisait à peu près 2 heures qu'on était sur place, qu'on travaillait sur place. On venait de tourner une séquence sur le marché de la ville avec la babouchka en question qui fait l'accroche du sujet. Donc. Et après cette séquence, donc... Notre fixeur reçoit on s'était un petit peu détendu. On se disait que Moscou était loin, qu'on était loin des problèmes éventuels. Et en fait, à ce moment-là, il y a notre fixeur qui reçoit un appel sur son téléphone portable. Et il se trouve que c'était le représentant local du FSB, les renseignements russes, le service de renseignement russe. Là, c'était le représentant local du FSB qui demandait à nous voir et qui demandait à savoir ce qu'on faisait ici, dans cette petite ville, et qui s'intéressait à ce qu'on allait en dire, quoi.
Ça passe pas inaperçu, une équipe de télé dans cette petite ville ?
Ben non, je pense qu'on était un petit peu exotique, en effet, pour les habitants de la ville, mais c'est surtout, en fait, on ne sait pas très bien qui nous a dénoncés, puisqu'on a été forcément dénoncés. Alors, est-ce que c'est le journaliste local qui a donné le numéro de notre fixeur à l'agent du FSB avec qui il est très lié, très ami ? On ne sait pas très bien. Cet agent arrive là où on était, on était en train de préparer un direct, donc du coup, on annule le direct, et ça a duré longtemps quand même, plus d'une heure.
Ils vous ont fait passer un interrogatoire ?
Non, pas du tout. En fait, on s'était posé pour écrire le direct et pour transmettre dans un café, dans le petit café de la ville. Et donc, ils nous ont rejoints dans le café. Alors, ça a l'air informel, sympa comme ça. Mais je vous assure que quand ils passent la porte, c'est tout bête. Mais par exemple, ils ne sourient pas du tout. Donc, c'est quelqu'un qui a un visage extrêmement fermé, qui arrive, qui se pose. Il nous regarde à peine. Il se concentre en fait son attention sur notre fixeur et l'échange avec lui. Que font-ils là ? Pourquoi ils sont là ? Qu'est-ce que ces Français vont raconter sur la Russie ? Est-ce qu'ils vont dire du mal de nous ? Est-ce qu'ils vont dire dans leur reportage, je me souviens, quand notre fixeur nous a traduit, ils avaient peur qu'on dise que les Russes mangent du chien. Ils avaient peur, en fait, qu'on les dénigre, qu'on parle mal d'eux. Et il y a vraiment cette volonté de pas être... ils ont peur, en fait, d'être caricaturés, d'être perçus comme les méchants en Occident. Et donc, ils voulaient s'assurer qu'on n'allait pas dire du mal des Russes et de l'opération spéciale dans notre reportage, en fait, dans notre sujet.
Comment on se sent à ce moment-là ?
Avant qu'il arrive, on avait déjà pris des précautions, c'est-à-dire qu'on avait effacé de notre téléphone portable toute trace de notre interview passée avec l'activiste. Peut-être qu'il y a une part de fantasme là-dedans, mais on s'est dit, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Peut-être qu'ils vont vouloir regarder dans notre appareil photo ce qu'on a tourné, regarder dans nos téléphones portables pour savoir qui on a rencontré. Donc en fait, on fait doublement attention et puis voilà, toutes les rencontres qui pouvaient ne pas aller dans la ligne des pro-gouvernements, on a décidé de les effacer de nos téléphones portables, quoi.
Parce qu'en fait, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé mais qui est très important, c'est que la perception en fait de cette guerre en Russie est radicalement différente de la nôtre ici. Ça nous a vraiment presque sidéré. Toutes les images de Mariupol, de cette ville martyre qu'on a, qui tourne en boucle sur nos chaînes ici en France, les mêmes images sont présentes sur les chaînes russes. Donc c'est très surprenant parce qu'on sait pas. Au départ, on se disait ils ne parlent pas de la guerre, mais c'est pas ils en parlent, mais simplement là-bas, on explique que c'est le gouvernement ukrainien qui massacre les civils ukrainiens.
Voici les informations sur la première chaîne. Bonjour. À Donetsk, à nouveau des bombardements des forces ukrainiennes. Cette fois, c'est une école et un jardin d'enfants qui ont été touchés. Une femme est morte à la suite de cette attaque. Situation humanitaire difficile à Tchernigov. 120 000 personnes y sont bloquées. Les nationalistes ukrainiens ne les autorisent pas à quitter la ville.
Et que les Russes sont là pour libérer les Ukrainiens du joug nazi, c'est le vocabulaire du gouvernement russe, du joug nazi de ces pauvres Ukrainiens. Et si vous voulez, les Russes, que ce soit dans les campagnes ou que ce soit à Moscou, la plupart, excepté quelques vraiment rares intellectuels qui ont déjà fui, comme le disait Étienne, ou une classe moyenne vraiment très très, en tout cas au courant, et qui trouve des informations ailleurs que sur les chaînes d'infos, les Russes, ils y croient totalement, en fait. Et donc, eux, ils pensent très honnêtement que le gouvernement aide les Ukrainiens, et ils n'ont pas du tout la même perception que nous de la guerre. À tel point qu'il y a même un moment où, moi, je me souviens, mais et si c'était pas en France qu'on racontait des bêtises ?
La vérité est celle que nous, on connaît ici, en France, en Occident. Donc, ça nous fait doublement halluciner quand on voit ça à la télévision russe. Mais par contre, on peut comprendre totalement pourquoi la population russe ne cherche même pas à une autre vérité ou ne cherche pas à savoir ce que nous, on peut en penser. Parce que pour eux, ça leur paraît totalement impossible que les informations soient biaisées à ce point. Et pourtant, elles le sont à la télévision russe tous les jours.
Vous savez un peu le programme là, des prochains jours, des prochaines semaines, si vous repartez sur le terrain, si vous retournez en Russie, en Ukraine ?
Là, normalement, on va se reposer un petit peu.
Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais en fait, ce qui est sûr, c'est qu'on a un visa russe maintenant qui est valable pour 3 mois. Du coup, peut-être qu'on va en profiter, puisque la guerre va forcément continuer. Peut-être qu'on profitera de ce visa russe pour aller peut-être dans les territoires du Donbass, où il y a besoin de ce visa pour travailler, voilà. Rien n'est encore fixé, mais voilà, c'est une éventualité.
Merci Étienne, merci Marie. Bon repos du coup.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un podcast créé pour raconter différemment la guerre en Ukraine. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.